Alors, donc ce soir, il y a la session. Normalement, on va ouvrir le débat. Ce que je vous propose, c'est que je reprends un peu la parole, un petit moment. On va rester dans le concret ce soir. On va rester dans le concret, et puis demain, on réabordera les choses de façon sur un angle plus spirituel. Et puis, entre le moment là où j'aurai fini de causer, bon, je vais essayer de finir vite, hein, c'est mon problème, vous le savez, hein, j'ai pas de mal à parler, moi. Ce que je vous propose, c'est que, à ce moment-là, on passera le film, quand j'aurai fini, on passera le film de présentation d'Arocha, non, pas maintenant, tout à l'heure. Hein, voilà. Et comme ça, après, eh bien, on pourra ouvrir un peu la discussion sur comment s'impliquer de façon plus pratique pour l'environnement. Alors, avant de revenir sur le comment agir concrètement, je voulais quand même faire prendre un tout petit moment pour évoquer un petit peu les controverses, les divergences par rapport à la vision qu'on a développée ce matin. Alors déjà, les controverses non chrétiennes. Donc on peut évoquer ce que c'est que la deep écologie, dont vous avez peut-être entendu parler. La deep écologie, c'est une façon de voir l'écologie telle que, en fait, c'est un rejet de l'humanité. C'est de dire, mais la planète est tellement menacée par l'homme que l'homme n'est qu'un parasite, n'est qu'un prédateur, il n'a pas sa place. Le monde sans l'humanité, ce serait en fait l'idéal. Et donc, au mieux, l'homme est abaissé au niveau des animaux, absolument comme les autres animaux, et que le plus fort domine le plus faible, et puis il y a une sélection naturelle, et le tout eh bien, se traduit par une diminution de la présence de l'humanité. Donc, c'est une position par rapport à ce qu'on a vu sur la place de l'homme dans la création, qui est tout à fait en contradiction, bien entendu, avec l'enseignement biblique. Vous avez ensuite la vision du New Age. Le New Age, c'est la base du New Age, pour faire simple, hein, c'est vraiment l'illustration de cette tentation « Vous serez comme des dieux ». Hein, donc, le New Age, c'est... tout cela fait un grand tout. Nous faisons partie d'un tout et nous sommes Dieu est dans tout le monde et dans tout, et nous sommes des petits dieux et nous sommes partie prenante de cette planète dans laquelle on doit se charger d'énergie, on doit être en communion avec toutes les autres créatures et on doit se mélanger dans tout ça. Et en fait, il n'y a pas cette position particulière que l'homme a vis-à-vis de la création. Avec une variante du New Age qui est l'adoration de Gaïa, où la planète est déifiée carrément, c'est la planète est le dieu Gaïa, et on fait partie de ce dieu. Et donc, il n'est pas question de parler, bien entendu, d'un mandat ou d'une position particulière de l'homme dans tout ça. Alors ça entraîne tout ce mouvement vers, on va dire, les philosophies orientales, tout ce qui est méditation, les Courmettes, qui est le fameux domaine là, dont je m'occupe maintenant, là, ce nouveau centre à Rochat en France, a été, alors que c'était une propriété protestante, pendant 25 ans, a été le haut lieu du New Age dans le sud de la France. Donc on reprend un site qui non seulement, bon, il faut tout remettre en route, enfin il faut tout créer en termes d'accueil du public et d'éducation à l'environnement, mais en plus c'était une montagne de balles, si vous voulez, c'était vraiment un lieu où il s'est passé des tas de choses sur le plan spirituel, où en fait ils organisaient des stages les uns derrière les autres de tout ce qui était spiritualité avec et surtout sans Dieu. Donc vous imaginez ce que fait une spiritualité sans Dieu, ça part dans tous les sens, et c'est vraiment ce qui s'est passé sur ce site qui est très chargé spirituellement, et on traîne une réputation de secte, si vous voulez. Quand on parle des Courmettes sur la Côte d'Azur, les gens disent « Oh, mais aux Courmettes, c'est une secte ». Effectivement, il s'est passé tellement de choses là-haut que donc ça fait partie d'une difficulté qu'on rencontre, sans compter aussi... Que tous ces gens qui étaient venus en stage dans le cadre de ces stages essayent de revenir aux Courmettes, nous sollicitent pour refaire des stages parce que le cadre, ceci, il y a un chêne millénaire, donc ils viennent se charger d'énergie sur le chêne. Il y a toute une espèce de mythologie qui gravite sur ce site. Et donc c'est aussi un combat spirituel, comme vous pouvez l'imaginer. Et une des réponses, en tout cas, à cette vision des choses, c'est Saint Paul qui nous le donne en Romains 8. Vous voyez, je dis Saint Paul parce que je suis habitué aussi à m'adresser à un public catholique. Mais oui, ça fait partie des codes. Si vous avez un public catholique, si vous parlez de l'apôtre Paul, ils se raidissent. Hein, ils se raidissent et ça ferme les oreilles. Hein, donc, devant un public catholique, il faut parler de Saint Paul. Et là... Mais je suis saint grâce à mon sauveur. Donc, j'ai mis Romains 8, mais c'est Romains 1, en fait. « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et la conséquence de ça, de cette déification de la création, c'est-à-dire d'adhérer la création et non pas le créateur, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. » Donc vous voyez que là, Paul insistait sur le fait que dans notre relation avec la création, la création, ce n'est pas Dieu, c'est bien le Créateur, et nous sommes là pour prendre soin de la création, mais par amour du Créateur. Il faut pas, et cette confusion, vous voyez, existait déjà dans les tout premiers temps. Et si vous lisez la suite de ces versets, du reste, ces versets, quand ils disent, Paul dit que Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, et après il fait une allusion très claire à l'homosexualité, qui est quelque chose que nous connaissons aujourd'hui, comme vous le savez. Ensuite, une autre dérive importante, c'est la surexploitation de la terre. Malheureusement, cette surexploitation de la terre, parfois, on en impute la responsabilité aux chrétiens. Depuis, un type qui s'appelle Lynn White, qui a fait une conférence très célèbre aux États-Unis, en disant « l'excès de consommation, c'est une mauvaise interprétation des textes bibliques, notamment des mots « dominer » et « assujettisser », et qui se sont traduits donc par une justification de la surexploitation de la terre. Alors, dans les dérives chrétienne qu'on peut voir, c'est celle-ci, bien entendu, et malheureusement, c'est encore des choses qu'on entend. Vous avez tout un débat sur ce fameux passage de la deuxième épître de Pierre. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu, etc. En tout cas, beaucoup de gens disent, mais on reviendra là-dessus demain, mais en tout cas c'est vraiment une dérive chrétienne de dire, puisque la planète est condamnée à être désagrégée, à quoi bon en prendre soin. Et ça, on l'entend énormément. Et j'ai même lu sur Internet des messages de pasteurs qui défendaient cette thèse. Bon, sachez que sur ce texte de Pierre, comme ça, je n'aurai pas besoin de le rappeler demain, il y a aussi une controverse sur... Là, il y a tout un courant de théologiens qui disent « la terre sera détruite et recréée », et des théologiens qui disent « non, 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 c'est bien la même terre, et cette désagrégation par le feu, en fait, sera une purification de tout le mal sur la terre, mais c'est bien la même planète qui sera restaurée ». Je ne suis pas suffisamment pointu en théologie pour pouvoir moi-même prendre une position entre ces deux options. Voilà. Ensuite, il y a tout le débat sur création et évolution. Bon, c'est évident que la Bible nous enseigne la création, hein. C'est le quatrième mot de la Bible, hein. Au commencement, Dieu créa. Donc ça, c'est une certitude. En revanche, il y a tout le débat de savoir si la création s'est faite en 6 jours, et même 6 jours de 24 heures, ou 6 périodes identiques, etc. Et là, je sais que ça divise beaucoup de chrétiens. En tout cas, sachez qu'à Arocha, dans lequel il y a de nombreux scientifiques, il y a quand même un respect du travail scientifique. Les scientifiques diagnostiquent quand même des étapes dans la création du monde, reconnaissent, identifient un certain nombre d'étapes qui se comptent en millions ou en milliards d'années. Et il y a même parmi les scientifiques qui sont dans Arocha, des gens qui respectent tout à fait aussi qu'il y ait une part d'évolution selon les espèces. Et c'est pas très difficile quand vous savez qu'il y a des écosystèmes qui sont complètement isolés les uns des autres, par exemple des lacs, des grands lacs africains, dans lesquels on trouve des espèces endémiques qu'on ne trouve que dans ces lacs, et qui sont manifestement des petites évolutions d'espèces qui se sont trouvées piégées là à l'origine. Donc si vous voulez, on trouve des tas de très bons scientifiques, très bons chrétiens, qui disent « mais l'évolution des espèces, ça ne nous pose pas de problème ». Donc ce n'est pas à Arocha que vous trouverez un espèce de débat en disant « c'est tout création, c'est toute évolution ». Non, la création est une certitude. La théorie de l'évolution, c'est absolument évident qu'elle n'explique pas tout. C'est absolument évident qu'il y a beaucoup plus de chaînons manquants que d'explications dans l'arbre de l'évolution. Mais sachez qu'il y a beaucoup de scientifiques chrétiens très sérieux et très bons chrétiens qui respectent tout à fait le principe qu'il y ait une certaine évolution entre les espèces. Hein, et je vous rappelle, alors cette évolution... sous contrôle du Créateur, très probablement, je vous rappelle une fois de plus, ce verset 30 du psaume 104, « Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Hein. » Alors, une autre controverse dans le monde chrétien, pourquoi vous embêtez à vous disperser l'énergie des chrétiens pour se préoccuper de la création? Le plus important, c'est l'humanité, c'est de faire des conversions, c'est d'annoncer la parole de Dieu, c'est de prêcher l'évangile, c'est tout ce que nous avons dit encore tout à l'heure. Donc ne perdons pas de temps à s'occuper de la création, hein, et c'est même une dispersion des énergies des chrétiens. Hein, et ça, c'est très, 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 très répandu. Et peut-être dans certaines de vos églises. Donc, voilà. Autre controverse chrétienne, eh bien, l'attitude qu'on peut dire de George Bush, hein, où il y a une espèce de mélange entre la religion et le pouvoir de l'argent. Hein, je dis George Bush parce que l'exemple est assez flagrant, et on sait que lui-même a été manipulé par tout un réseau de lobbyistes. On les a évoqués tout à l'heure comme étant les professionnels du mensonge. Et bien entendu, en tout cas, sachez qu'en Europe, l'étiquette évangélique est immédiatement associée à George Bush, et dans le témoignage, ça rend les choses assez difficiles. Donc voilà, j'ai terminé ce chapitre sur les différentes controverses, mais je pense que c'est important de le mentionner. Donc nous, verrons demain un petit peu la valeur ajoutée spécifique des chrétiens dans le monde. Et là, je vous propose de évoquer, qui est le corollaire de ce qu'on a vu ce matin, comment agir concrètement. Comment agir concrètement ? Ben, le corollaire de ce qu'on a vu ce matin, c'est vivre sobrement, et je vais vous donner un certain nombre de pistes. Et j'ai commencé par mettre respecter la nature. Respecter la nature, la biodiversité. Et vous allez voir dans le film d'Arocha que c'est quand même la culture d'Arocha est très orientée sur la conservation de la nature. Quel est le sens du respect de telle espèce de batracien qui est en train de disparaître et qui, pour préserver sa survie, exige de sauver des zones humides ou de sauver un pan de forêt équatoriale? Eh bien, si vous voulez, je rappellerai ce qu'on a dit tout à l'heure. Jésus, il a dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Alors, c'est peut-être aller un peu vite que d'extrapoler ça aux espèces, mais telle rainette, telle salamandre, tel triton qui est condamné à la disparition, c'est quand même une espèce qui a été créée par Dieu, créée pour cette diversité extraordinaire, et c'est quand même tout à fait inacceptable que par nos comportements, eh bien, il y ait des espèces qui disparaissent. Et c'est la raison pour laquelle Arocha se focalise d'abord sur la conservation de la nature, parce que si on s'attache à préserver des espèces si fragiles, si marginales, menacées, eh bien, derrière, automatiquement, on va aussi s'attaquer aux grands enjeux environnementaux. Alors que si on s'attaque directement au grand problème du réchauffement de l'atmosphère, ce que fait Climate Stewart, on risque de ne pas descendre au niveau de ces espèces qui sont fragiles, qui sont humbles, qui sont petites, et qui n'est pas vraiment un signe du respect de la création dans sa globalité. Donc, que vaut, par exemple, après une marée noire, le démazoutage d'un oiseau ? Hein ? On sait très bien, il y a une marée noire, il y a des guillemots, il y a des pingouins qui sont mazoutés, qui seront très probablement de toute façon condamnés à mourir tôt ou tard et qui très probablement ne se reproduiront plus. Or, vous avez les associations de conservation de la nature qui font un acharnement terrible pour démazouter ces oiseaux. Et c'est une façon de dire au monde, cette pollution par le pétrole est inacceptable. Hein ? Cet oiseau qui est en train de crever à cause d'une pollution par le pétrole, c'est inacceptable. Cet oiseau qui est faible, qui est victime, eh bien, on dépensera l'argent qu'il faudra, le temps qu'il faudra pour le sauver parce qu'il est une créature et on montre que c'est inacceptable de sacrifier une créature sauvage, éventuellement une espèce menacée, à cause de la cupidité dont on a parlé cet après-midi. Donc, que faire de façon très concrète ? Eh bien, vraiment respecter la nature, la contempler, la comprendre, prendre le temps de regarder son jardin, de regarder son environnement, de regarder son jardin public, de voir que les hirondelles sont arrivées, d'entendre, tout à l'heure on entendait le pic qui cognait les arbres, parce que ça c'est vraiment le reflet hein, de la grandeur de Dieu. Hein, donner plus de place vraiment à la nature. Alors après, bien entendu, on va réévoquer ben, les grandes questions environnementales qu'on a citées aujourd'hui. Hein, réduire notre consommation d'énergie. Hein, dans les grandes décisions, quand j'achète une voiture, est-ce que je n'ai pas tendance à acheter une plus grosse voiture que mes besoins ? Quand j'achète une maison, quand je loue un appartement, est-ce que dans ces décisions qu'on prend quelques fois dans sa vie, je ne suis pas en train de me laisser tenter, et puis après, dans le quotidien, est-ce que je sais prendre le transport en commun au lieu de ma voiture ? Est-ce que je sais prendre le vélo au lieu de le transport en commun ? Est-ce que je sais prendre le train alors que c'est moins confortable et c'est tellement plus simple de prendre l'autoroute et d'arriver directement à destination ? Et même si je prends ma voiture, est-ce que je ne peux pas rouler autrement ? Et vous savez très bien qu'on peut moduler sa propre consommation de au moins 20% en roulant de façon Voilà, de façon en disant ben, je roule, je consomme et eh bien j'essaye de limiter mon empreinte en réduisant ma vitesse et en modifiant mon comportement sur la route. Hein. Quel choix en termes de chauffage, en termes d'habitude. Hein. Je dis moi je suis un peu choqué, je vous cache pas d'être en chemise ce soir alors qu'il gèle dehors. Mais bon, manifestement c'est votre culture, c'est votre habitude de vie. Hein. Je pense que de ce côté-là, on a tous des efforts à faire, et chez moi aussi. Je ne vais pas vous raconter ma vie et les longues discussions que j'ai eues avec ma femme le jour où je lui ai proposé de mettre un poêle à bois dans la cuisine, parce que ça fait de la poussière. Mais pour parler de ma femme, donc elle est médecin, elle a un appartement au centre-ville d'Amiens, enfin un appartement, c'est un studio, parce qu'on a pris un petit studio d'étudiants comme pied-à-terre, et ben la première fois qu'elle est arrivée à l'hôpital où elle a son centre de cure, qu'elle est arrivée en vélo, je peux vous dire que ça a été remarqué. Et quand elle a dit oui, je viens en vélo parce que je veux sauver la planète et je le fais ça parce que je suis chrétienne, ben je peux vous dire que c'est un début de longue discussion. Hein. Elle est venue en vélo, elle est venue en bus. Hein. Le médecin, il vient pas à l'hôpital en bus, ça se fait pas. Hein. ni en vélo ni en bus, ça se fait pas. Le médecin, il vient en voiture. Hein. Donc, si vous voulez, on se rend compte que par plein de petits signes, de plein de détails, hein, eh bien, ces changements de comportement peuvent être des témoignages, mais on en reparlera demain. Hein. Réduire notre consommation d'énergie, c'est aussi acheter local. Hein. Je pense aux légumes, aux fruits, etc. Bon, hier soir, on a eu du raisin. Je doute qu'il y ait beaucoup de vignes qui produisent du raisin au mois de mars au Québec. A priori, dans ce raisin, il devait avoir une odeur de kérosène assez marquée. J'ai pris un gobelet jetable, excuse-moi, mais je n'ai pas pris de raisin. Bon, veiller sur la nourriture, hein, on l'a évoqué, acheter saisonnier, acheter éventuellement bio ou issu d'agriculture raisonnée, limiter la consommation de viande. Hein. À l'échelle de la planète, actuellement, la consommation théorique possible par habitant est de 100 grammes par jour et par personne. Hein, regardez ce que nous avons dans nos assiettes. Et vous allez vous rendre compte que là encore, il y a une disparité entre des gens qui mangent 300 à 400 grammes de viande par jour hein, et des gens qui n'en mangent que 50 grammes une fois par semaine ou dont la seule ration de protéines, c'est un œuf ou quelque chose comme ça. Donc se donner des limites hein, et puis sans doute manger moins. Moi le premier. Ben oui, mais on est toujours tenté. Et puis trouver un équilibre entre... On voit Jésus qui gueuletonne, souvent, hein, mais je pense que le repas, effectivement, il y a une dimension conviviale extrêmement forte. On est heureux de partager un repas, on est heureux d'aller au restaurant, on est heureux d'inviter quelqu'un chez soi ou d'être invité chez d'autres. Et c'est normal qu'à ces occasions-là, eh bien, il y ait des extras parce que ça donne un caractère festif, etc. Mais quand je me retrouve tout seul en tête-à-tête avec ma femme ou que vous vous retrouvez tout seul dans votre colocation d'étudiant, là, il y a, indépendamment de l'aspect financier, parce qu'effectivement, ça coûte cher de se nourrir, il y a aussi une mesure à avoir dans la façon de manger. Et en général, mieux consommer, passer de l'avoir à l'être. Hein, limiter les déchets, c'est une vigilance sur les approvisionnements, c'est de refuser d'acheter des objets qui sont hyper emballés, rien que pour des raisons d'esthétique, c'est plutôt acheter du vrac et bien gérer. Vous voyez qu'il y a plein de pistes, hein, mais demain on parlera de l'écolo-légalisme, donc n'attendez pas de moi que je dise un bon chrétien, etc., ne mange que tant de grammes de viande par jour, ou ne fait que ci, ou ne fait que ça. Hein, je ne veux surtout pas, ce que je veux seulement, c'est vous donner des pistes de réflexion en disant « Et moi, qu'est-ce que le Seigneur me dit de faire ?» Tout à l'heure, tu as parlé de l'argent. Hein, là aussi, comment je gère mon argent? Comment je gère mes économies? Quand je vais les confier à la banque, je donne mandat un organisme financier de mettre sous pression tous nos dirigeants, grands dirigeants, pour dégager du dividende. Hein ? Alors, vous n'êtes peut-être pas encore à un âge où vous allez chercher des retraites complémentaires, mais quand on franchit la quarantaine et qu'on commence à se dire « la retraite s'approche », on fait la tournée des marchands de retraite complémentaires de sa ville, et on va voir un marchand de retraite complémentaire, et on va demander « si je te mets 100 € tous les mois, qu'est-ce que j'aurai comme retraite plus tard ?» Laquelle retraite vous allez choisir ? Vous allez choisir, bien entendu, le marchand de retraite qui va vous proposer le meilleur rendement. C'est normal. Bon. Mais lui, qu'est-ce que vous faites ? Vous lui donnez un mandat pour qu'il aille mettre sous pression toutes les entreprises cotées en bourse pour qu'elles dégagent du dividende, du dividende, du dividende, pour tenir vos engagements en termes de retraite. Donc vous voyez qu'on est tous complices. On est tous complices. On est révolté contre l'exploitation des sables bitumineux, mais à chaque fois que je vais à la pompe, je suis vorace en pétrole et je deviens complice de tout ce que font toutes ces compagnies pétrolières autour de la planète. Hein ? Donc, alors il ne faut pas non plus culpabiliser, mais on en parlera demain. Hein, mais sachons qu'un changement de style de vie, c'est aussi prendre en compte toutes ces réalités. Que je dis, oui, Seigneur, je reconnais, je suis complice. Je suis complice de toute cette over-exploitation d'énergie, mais bon, Seigneur, accepte que ma démarche soit un effort et je te demande de mettre la différence. Nous en reparlerons demain. Que faire concrètement ? Je peux aussi influencer la société, voter avec mes pieds, comme on dit, voter dans la façon de consommer, déjà, on vient de le dire, hein, voter aussi avec mon bulletin de vote hein, sur les politiques, participer à des associations qui ne sont pas forcément chrétiennes, de protection de l'environnement, et qui font un excellent travail. Dans nos entreprises, les choix qui se prennent au niveau de nos entreprises, ceux qui travaillent dans des entreprises, vous contribuez à un certain nombre de décisions, eh bien, influencer ces décisions dans le sens de respecter la création. Voilà, bon, tout ça, bon, je vais peut-être pas... j'ai une liste d'exemples, mais peut-être que ça reviendra lors de la discussion tout à l'heure, si vous le souhaitez. Hein. Et puis, ce que je vous propose peut-être là maintenant, c'est de regarder le film d'Arocha, et puis après, peut-être d'ouvrir la discussion, peut-être sur ce que fait Arocha, et puis sur ce que, de façon très concrète, nous pouvons envisager comme changement de comportement.